9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bonne année, je suis ravi de vous retrouver. Nous allons commencer cette émission avec Guillaume Rosier, c'est le créateur de Covid Tracker et de Vaccin Tracker. Il n'a que 25 ans et il est le premier à avoir compté les vaccinés en France. Il va nous dire ce qui s'est passé, où nous en sommes aujourd'hui. Je recevrai ensuite l'infectiologue Anne-Claude Crémieux. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme en ce qui concerne le variant britannique du Covid-19. Va-t-il falloir reconfiner de façon stricte comme en mars? Elle va nous le dire. Et l'on terminera l'émission avec l'écrivain anglais Stephen Clarke. Installé en France depuis une trentaine d'années, il nous régale avec des livres pleins d'humour sur les rapports franco-anglais. Or, Brexit oblige, depuis le 1er janvier, le Royaume-Uni s'est retiré de l'Union douanière et du marché unique. Alors qu'est-ce que ça change pour l'auteur de God Save la France? Son permis de conduire est-il toujours valable? Peut-il encore trouver chez nous de la dinde au curry ou de la salade de radis noir? Et va-t-il être obligé de déménager? C'est ce qu'on va voir. Bonjour Guillaume Rosier.
Bonjour Frédéric Taddeï, pardon.
Je vous en prie. Vous avez été le premier à compter les Français vaccinés. Vous l'avez fait bénévolement, en dehors de vos heures de travail. Quand le Figaro a sorti les chiffres au 1er janvier, ces fameux chiffres, la France qui n'avait vacciné que 332 personnes, alors que l'Allemagne en était déjà à 131 626, ce chiffre de 332, c'était le vôtre ?
Oui, c'était le mien. C'est-à-dire que les premiers jours, il n'y avait pas de chiffre officiel de comptabilisation du nombre de personnes vaccinées. Et donc, j'ai dû moi-même essayer d'additionner les chiffres que je trouvais, par exemple, dans la presse locale, du nombre de personnes vaccinées dans chaque EHPAD, dans chaque établissement, un à un.
Mais il n'y a toujours pas de chiffre officiel. Au fond, aujourd'hui, le gouvernement effectue un décompte qu'il vous transmet. Vous êtes le seul à communiquer le nombre quotidien de vaccinés. Ce sont les chiffres de Vaccin Tracker que reprennent les médias.
Oui, tout à fait. Alors, ça dépend des jours. De temps en temps, Olivier Véran ou le ministère communique le nombre de personnes vaccinées, mais c'est pas systématique, c'est pas quotidien. En revanche, moi, sur Vaccin Tracker, j'essaye en tout cas d'avoir un chiffre qui est quotidiennement mis à jour. Et donc, c'est le ministère qui me l'envoie aussi souvent que possible, quasiment tous les jours, pour avoir un décompte du nombre de personnes vaccinées aussi. Enfin, très régulièrement mise à jour.
Mais dans la presse, quand on dit que le gouvernement s'appuie sur vous pour savoir combien de Français ont été vaccinés, c'est pas tout à fait exact. C'est plutôt l'inverse.
En effet, c'est pas tout à fait exact. C'est plutôt moi qui dépend de leurs chiffres pour pouvoir les mettre sur Vaccin Tracker. Alors, il est vrai qu'au début, les premiers jours, on n'avait vraiment aucun chiffre public. Et donc, les médias et la population se reposaient sur mes chiffres qui étaient issus, donc, hein, comme je l'ai dit, de la somme que je faisais moi-même du nombre de personnes vaccinées dans chaque EHPAD que je trouvais dans la presse régionale ou dans les bilans de communication des EHPAD ou des établissements. Donc, au début, les médias ont reposé sur moi. Mais quelques jours plus tard, le ministère a pris contact avec moi de manière à pouvoir me communiquer de façon plus transparente le nombre de personnes vaccinées. Et donc depuis, c'est plutôt moi qui dépend d'eux, c'est moi qui dépend du ministère, puisque je reçois le chiffre du nombre de personnes vaccinées de manière à pouvoir mettre à jour Vaccin Tracker.
Alors j'ai regardé Vaccin Tracker, j'ai appris que 34 305 Français ont été vaccinés hier, ce qui fait 80 000 au total, ce qui fait 0,12% de la population. Tous ces chiffres figure sur votre site, que pour atteindre le million, si on garde le rythme actuel, il va falloir attendre la fin du mois de mars. Tout ça, on se demande pourquoi c'est si lent encore aujourd'hui, mais pourquoi c'était si lent dès le départ, à votre avis, vu que vous qui étiez aux premières loges.
En tout cas, le ministère m'a expliqué la stratégie qu'il souhaitait adopter donc très tôt, hein, quand ils m'ont contacté. Et donc, ils m'ont bien indiqué que leur stratégie, c'était de vacciner d'abord dans les EHPAD, d'abord dans ces établissements-là, et donc de monter doucement en puissance de manière à convaincre vraiment chacun de se faire vacciner. Donc apparemment, ça a été voulu de commencer en douceur. Et de plus, en fait, la campagne vaccinale devait réellement commencer, c'était planifié, devait réellement commencer d'abord le 4 janvier, puis monter en puissance le 18 janvier. Or, elle a été avancée d'une semaine à fin décembre, au 27 décembre. Et donc, en fait, c'était prévisible qu'on allait vacciner très peu de personnes sur cette semaine-là, entre le 27 décembre et le 4 janvier. Et donc ensuite, ça a été rectifié en demandant au personnel soignant d'aller se faire vacciner, ce qui a donc, depuis le début de la semaine, augmenté considérablement les chiffres, hein, puisqu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vaccinés cette semaine par rapport à la semaine dernière. Vous avez évoqué le fait qu'on atteindrait, au rythme actuel, on atteindrait le 1 million de personnes vaccinées au 30 mars, alors qu'on souhaite atteindre le 1er janvier. Je tiens à rappeler que si on regardait cet indicateur... Le 30 janvier. Je vous rappelle que si on regardait cet indicateur hier, on n'était pas au 30 mars, mais en juin. Et si on le regardait avant-hier, on était en 2024 et avant-avant-hier en 2050. Donc ça avance, le rythme de vaccination augmente considérablement et donc on sera peut-être en mesure d'atteindre cet objectif fin janvier.
Mais si le rythme augmente et si le président de la République a piqué une colère, comme on a pu le lire dans les journaux, c'est parce qu'il a vu votre chiffre et qu'il l'a comparé avec le chiffre des Allemands.
Oui, c'est sûr que la comparaison entre les chiffres français et le chiffre des autres pays n'était pas très flatteuse pour la France. Puisque la première semaine, on vaccinait quelques personnes ou quelques dizaines de personnes par jour, là où les Allemands vaccinaient plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque jour, ou en Italie aussi, par exemple, où c'est véritablement monté en puissance. Donc c'est possible que ça ait challengé leur décision. C'est sûr que ça a créé une pression médiatique, et puis beaucoup d'élus aussi se sont exprimés en défaveur de cette politique. Et donc oui, je pense que ça les a challengés au niveau politique.
Alors, vous dites que c'était voulu, hein, c'était la politique française qui consistait à faire de cette manière-là, assez lentement. Quand on invoque les lenteurs de la bureaucratie, la complexité de la procédure, trop de précautions, la logistique, la difficulté d'acheminer les vaccins dans les EHPAD et de les conserver, etc., etc., tout ce qu'on a pu lire ici et là dans la presse ou entendre dans les médias, vous pensez que ça n'est pas le cas? Vous pensez que c'était juste une volonté française et qu'on en a changé?
Oui, tout à fait, puisque c'était vraiment anticipé. Hein. C'est-à-dire que moi, le ministère m'avait déjà indiqué qu'on comptait vraiment commencer à vacciner le 4 janvier et puis ensuite mobiliser beaucoup plus d'EHPAD à partir du 18 janvier, etc. Donc c'était vraiment, en fait, c'était planifié. Je pense pas que cette première semaine de vaccination avec un rythme assez faible, je pense pas que ça ait été une surprise. On aurait pu l'anticiper quelques jours précédents. Je pense vraiment qu'il y a eu une volonté de commencer en douceur et puis de monter en puissance progressivement. Et donc cette politique a depuis été légèrement modifiée, hein, puisque cette semaine, on a quand même bien monté en puissance, puisqu'actuellement on est à plus de 80 000 personnes vaccinées depuis le début. Et aujourd'hui, on a vacciné 34 000 personnes. Donc c'était plus que le cumul des 7 jours précédents. Donc il y a véritablement une montée en puissance qui a été observée cette semaine.
Mais c'est pas encore assez. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? On avait peur de quoi?
Je pense qu'on avait peur des personnes qui étaient très réticentes en France à se faire vacciner par rapport aux autres pays. Et donc je pense qu'il y avait un souhait de politique du gouvernement de monter en puissance progressivement et doucement, de manière à montrer que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'effets secondaires graves, de prendre le temps de montrer, enfin que les soignants puissent montrer l'exemple en se faisant eux-mêmes vacciner pour que ce soit un gage de confiance pour les autres. Donc je pense que c'était une manière d'essayer de convaincre les personnes qui étaient réticentes à la vaccination. C'était peut-être une politique un peu trop défensive.
Guillaume Rosier, d'après l'IFOP, les Français qui veulent se faire vacciner seraient 51% dorénavant. Ça fait 12 points de plus depuis décembre. C'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, c'est une excellente nouvelle. Ensuite, moi, j'essaye de pas trop commenter ces décisions politiques. Hein. Mon rôle est d'analyser les chiffres de manière objective. Je ne suis pas épidémiologiste. Maintenant, tous les épidémiologistes nous disent que le vaccin est la seule solution à cette épidémie. Donc, je me réjouis qu'un nombre élevé de personnes vaccinées et qu'une proportion élevée de personnes souhaitant se faire vacciner, je me réjouis d'une proportion maximale, en effet.
D'après ce qu'on peut lire sur votre site, sur Vaccin Tracker, on a un peu plus d'un million de doses de vaccins aujourd'hui en France. Il y a un deuxième vaccin qui vient d'être autorisé, le Moderna. Qu'est-ce que ça change ? Est-ce que ça va accélérer le nombre de gens qui se font vacciner, sachant que le 26 décembre, on avait déjà 60 000 doses, le 29, on en avait déjà 500 000, et ça ne nous a pas empêché de ne vacciner que 332 personnes. Est-ce que la vitesse de vaccination, c'est lié au nombre de vaccins autorisés et au nombre de doses disponibles en France ?
Alors pour l'instant, comme vous l'avez indiqué, ça n'est pas lié. En tout cas, on aura fin janvier largement assez de doses pour vacciner 1 million de personnes, puisque comme vous l'avez dit, on a plus d'1 million de doses actuellement en stock, enfin un tout petit peu moins vu qu'on a vacciné 80 000 personnes. Et ensuite, on va recevoir encore 500 000 doses par semaine. Donc ça, c'est pour le premier vaccin Pfizer-BioNTech. Donc on va recevoir 500 000 la semaine prochaine, encore 500 000 la semaine prochaine, la semaine suivante. Et puis on va en plus recevoir 200 000 doses du vaccin Moderna. Mais donc le vaccin Moderna, à court terme, il va pas changer véritablement le rythme de vaccination, puisqu'en fait, on n'en reçoit que 200 000 sur le mois de janvier, d'après les dernières nouvelles, les dernières communications officielles, alors que le vaccin BioNTech, on en aura plus de 2 millions ou de 2 millions 500 000. Donc le vaccin Moderna ne va pas, c'est pas grâce au vaccin Moderna qu'on va pouvoir accélérer la vaccination, en tout cas pour le mois de janvier. Par contre, pour les mois suivants, on attend aussi d'autres vaccins, hein, par exemple comme AstraZeneca et d'autres, qui, tout comme le vaccin Moderna d'ailleurs, se conserve dans des conditions un peu meilleures. Et donc on va pouvoir peut-être mobiliser des structures différentes, comme par exemple des pharmacies ou autres, qui vont pouvoir, ou des médecins généralistes, qui vont pouvoir conserver ces vaccins directement dans leurs établissements et vacciner beaucoup plus de personnes dans les mois, dans les semaines et dans les mois qui vont venir.
On ouvre aussi des centres de vaccination hors EHPAD. Pourquoi ne l'avait-on pas fait plus tôt ? Pourquoi on n'a pas vu chez nous de vaccinodrome ? Et en verra-t-on d'après vous ?
Alors, en tout cas, les éléments qui sont remontés des différentes personnes actrices pour cette décision, c'est que en fait, il y a une réticence par rapport à la précédente épidémie en 2011, où on avait organisé des vaccinodromes et ça n'avait pas été un grand succès. Et donc, en fait, on avait ce mauvais souvenir en tête en France et donc on ne souhaitait pas faire la même chose. Je tiens d'ailleurs à rappeler qu'en Allemagne, ce n'est pas non plus une entière réussite, les vaccinodromes, puisqu'ils ne sont pas non plus bondés de monde, ils ont des problèmes de popularité. Et donc, en France, je pense que, enfin, il semblerait que la stratégie soit inverse. On souhaite plutôt amener le vaccin vers les gens plutôt que de laisser les gens venir vers le vaccin. Et donc, a priori, on devrait avoir une stratégie un petit peu différente, plutôt en passant par les médecins généralistes, les pharmaciens, etc., en amenant le vaccin vers les gens. Maintenant, je pense que dans une phase plus tard, lorsqu'on vaccinera la population de masse, à un moment donné, il sera peut-être nécessaire de mettre en place des vaccinodromes pour vacciner des millions de personnes très rapidement.
Alors, si on regarde votre site Covid Tracker, qui permet de suivre l'évolution de l'épidémie en France et dans le monde, quel a été l'effet du confinement allégé que nous vivons depuis 3 mois ? Quel a été l'effet du réveillon de Noël ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous pouvez nous le dire ?
Alors pour le confinement, en tout cas pour le couvre-feu qu'on peut mesurer, c'est celui de la mi-octobre, c'est-à-dire celui qui a été mis en place avant le confinement du mois de novembre et début décembre. Et là, on a véritablement vu un arrêt de la croissance, une stabilisation des cas dès la fin octobre, soit 2 semaines après la mise en place du confinement, et un début de ralentissement même qui a commencé à la mi-octobre, soit au moment de la mise en place du couvre-feu. Donc il semblerait que le couvre-feu ait un effet sur l'épidémie, qu'il permette de ralentir la croissance du nombre de cas. Maintenant, on ne sait pas si c'est le couvre-feu lui-même directement qui a eu un effet positif sur l'épidémie, ou si c'est la prise de conscience collective et la responsabilité individuelle qui ont peut-être été plus importantes suite à la mise en place du couvre-feu. Peut-être que le couvre-feu a fait prendre conscience aux personnes que l'épidémie revenait, qu'elle était plus virulente et qu'il fallait faire plus attention. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué d'évaluer vraiment l'impact réel du couvre-feu. En tout cas, il semblerait que ça ait un impact. Ça suffira peut-être pas à éviter une nouvelle vague, mais ça a un impact et ça permet de réduire les contaminations. Maintenant, sur l'effet des fêtes de fin d'année, là aussi, c'est extrêmement complexe pour plusieurs raisons, entre autres à cause du testing massif. Hein, les gens se sont massivement fait tester fin décembre, entre le 18 et le 22 décembre. Les personnes se sont fait massivement tester de manière à pouvoir voir si elles étaient positives avant les fêtes de fin d'année. Mais ça a complètement brouillé les indicateurs épidémiques puisque ça a augmenté artificiellement le nombre de cas parce que plus on cherche, plus on trouve. Donc on a beaucoup cherché sur cette période-là, on a plus trouvé. Ça a fait artificiellement augmenter le nombre de cas qui ensuite, juste après Noël, s'est bien sûr écroulé puisque les gens ont arrêté de se faire tester et qui depuis remontent. Donc c'est très difficile de dire d'où vient la remontée actuelle. Est-ce que c'était une tendance qui était déjà qui est amorcée avant Noël et qui donc se prolonge naturellement? Ou alors, est-ce que cette tendance a été amplifiée suite à Noël et puis aux fêtes de fin d'année? C'est très difficile de le dire. En tout cas, l'activité épidémique actuellement est élevée. On est sur un plateau élevé et elle est croissante depuis plusieurs jours. Donc, il va falloir suivre ça de très très près dans les prochains jours pour voir si la croissance se confirme. En tout cas, il semble très clair que l'activité épidémique augmente puisque éléments supplémentaires, indices supplémentaires, l'analyse des eaux usées, notamment à Paris avec le réseau Aubépine et à Marseille, indique qu'il y a aussi une augmentation de la présence du virus dans les eaux usées de Paris et de Marseille. Donc on a très probablement affaire à une reprise épidémique. Enfin, l'activité épidémique était déjà là, mais on va dire une activité épidémique qui est augmente jour après jour, mais aujourd'hui, on ne peut pas conclure avec fermeté en disant c'est à cause de Noël. On le saura dans les prochains jours.
Merci Guillaume Rosier. On s'inquiète à présent du variant britannique. On va en parler dans quelques instants avec Anne-Claude Crémieux.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour Anne-Claude Crémieux.
Bonjour.
Vous êtes professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'Académie de médecine. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, demande à l'Europe d'en faire plus pour limiter la diffusion du variant britannique du Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé affirme que la situation est alarmante. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Oui, complètement. Je pense que c'est vraiment la menace d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est un variant qui à cette propriété d'être plus transmissible que les souches que nous avons connues jusqu'à présent et qui s'est traduit par le fait que les mesures de freinage qui ont été utilisées en Angleterre au mois de novembre, c'est-à-dire le confinement qu'on pourrait appeler allégé, n'ont pas été capables de freiner cette souche, ce mutant anglais, alors même que ces mêmes mesures ont été capables de freiner les souches antérieures. Donc on voit bien que cette contagiosité accélérée se traduit aussi par un contrôle plus difficile, ce qui est évidemment préoccupant.
Il y a déjà eu de nombreux variants. Hein. Celui-ci aurait donc cette particularité d'être plus transmissible. Il contaminerait plus les enfants ?
Alors, les données qui nous viennent d'Angleterre et en particulier de l'Imperial College ont montré que dans une étude dans laquelle ils peuvent faire la différence entre les personnes qui sont infectées par ce variant et les personnes qui sont infectées par les autres souches virales, ils ont montré qu'effectivement, chez les personnes de moins de 20 ans, on voyait une circulation de ce virus plus importante. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que début décembre, fin novembre, les Anglais avaient déjà montré sur des études qu'ils font régulièrement pour voir quelle est la prévalence du SARS-CoV-2 dans la population. Ils avaient déjà montré qu'il y avait une augmentation de la fréquence de ce virus chez les 12-17 ans, c'est-à-dire enfin, c'était même les 13-17 ans, c'est-à-dire dans une population d'âge scolaire. Ils avaient souligné ça avant même de pouvoir attribuer cette augmentation à ce variant. Et c'est ça, c'est un point qu'il faut souligner, et c'est la raison pour laquelle les autorités sanitaires, en plus des autres mesures de surveillance des souches virales, ont décidé d'avoir un œil particulier sur la population d'âge scolaire.
S'il est déjà en France, est-ce que ça veut dire qu'il va forcément devenir, comme en Grande-Bretagne, le variant majoritaire ?
Alors, si effectivement, on a déjà un virus qui circule de façon assez active en France, malheureusement, il est difficile d'imaginer que nous pourrons échapper à sa diffusion rapide. Mais ce que ça voudra dire, évidemment, pour les autorités sanitaires, c'est qu'il faut voir la possibilité d'augmenter les mesures de freinage pour ne pas être totalement dépassé.
On reviendra sur les mesures de freinage, mais Anne-Claude Crémieux, ce qui est très inquiétant, c'est que ce variant ne tue pas plus, mais étant donné la croissance exponentielle inhérente à une épidémie comme celle-ci, il est potentiellement plus mortel, car il y aura un plus grand nombre de contaminés, donc les hôpitaux risquent d'être davantage saturés, donc il risque d'y avoir plus de morts.
C'est ce qui se passe en Angleterre, vous le savez, là. Les hôpitaux, hein, la NHS, sont débordés. Effectivement, l'objectif, c'est de ne pas en arriver là. Et donc, ne pas en arriver là, c'est effectivement essayer d'éviter de se retrouver dans la situation anglaise en freinant l'arrivée et puis la circulation de ce virus avant qu'il ne prenne l'importance qu'il a en Angleterre.
Et la deuxième chose... Pardon de vous interrompre, mais vous vous souvenez, c'est ce qu'on disait aussi au moment où le Covid était en Italie et qu'on disait, on va le freiner pour ne pas en arriver là où on est en Italie.
J'allais le dire. Donc, moi, je plaide évidemment pour ne pas sous-estimer cette menace qui est très importante. Donc, effectivement, il ne s'agit pas de tenir le même langage que celui qui a été tenu par certains au moment de l'Italie en disant c'est l'Italie et c'est parce qu'ils ont un système décentralisé, ça ne nous arrivera pas. Ce sont les Anglais, c'est à côté, ils ont un système qui marche bien, ils ont surtout un système de détection des différentes souches qui est remarquable et évidemment, si ça leur est arrivé, ça peut nous arriver et la question c'est de savoir quand. Et ce que ça veut dire, si on veut effectivement éviter l'impact sanitaire important, c'est qu'il faut vacciner, vacciner, vacciner. C'est ça que ça veut dire. C'est vraiment une des raisons majeures d'accélérer le processus de vaccination.
Pour autant que ce système de vaccination soit toujours aussi efficace, on a peur qu'il soit moindre.
Alors, vous avez raison. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Il y a eu quelques essais qui ont pris le sérum des personnes convalescentes, c'est-à-dire qui avaient été infectées par les souches anciennes et qui ont regardé si ce sérum continuait à neutraliser ce nouveau virus. A priori, les premiers résultats sont plutôt rassurants, mais nous ne serons, je dirais, rassurés de manière définitive que quand on aura les résultats à partir des personnes vaccinées. Donc on attend avec pas mal d'impatience les résultats, notamment des firmes de Pfizer, pour qu'il nous confirme bien, ou malheureusement qu'il nous infirme, que cette souche est bien neutralisée par le vaccin.
Cela dit, les vaccins ARN messagers, comme celui de Pfizer ou celui de Moderna, on peut les modifier pour les adapter à ce nouveau variant.
Tout à fait, c'est-à-dire que ça ne serait pas une catastrophe pour l'avenir, mais ça serait évidemment très préoccupant pour les semaines qui viennent, puisque ça voudrait dire que le vaccin ne permettrait pas d'être une arme pour contrer l'impact sanitaire. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on vaccine essentiellement les personnes âgées, les personnes de plus de 50 ans pour ce qui est des personnels soignants, les personnes qui peuvent faire des formes sévères. Donc c'est vraiment, je dirais, l'arme absolue pour éviter les conséquences sanitaires de tout virus, et en particulier de ce variant, si on confirme son efficacité, et c'est l'arme anti-confinement, puisque c'est ça qui nous permettra d'éviter de confiner de façon répétée jusqu'à l'été.
On se retrouve dans un instant, on continue d'en parler.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Anne-Claude Crémieux, professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Quand l'OMS dit qu'il faudrait en faire plus, ça signifie quoi ?
Ce que l'OMS veut dire, c'est que si on veut éviter que le virus évolue, alors il évolue, mais dans un sens qui nous est défavorable, qui est favorable au virus, une des façons de faire, c'est justement d'éviter qu'il circule trop. Plus le virus circule, plus il atteint de personnes et plus il a de chances d'avoir une mutation, mutation qui peut, on l'a vu, être favorable à sa circulation et défavorable à la santé humaine. Donc, ce que veut dire l'OMS, c'est que une des façons de faire, en attendant d'avoir une couverture vaccinale suffisante, c'est de l'arrêter, de le freiner. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, la seule façon que nous avons, c'est des confinements. Confinement qui, on l'a vu chez les Anglais, doit être strict pour arrêter ou pour espérer arrêter la circulation de ce virus.
Au fond, j'ai l'impression qu'on est revenu au mois de février. Oui. Au mois de février, on se souvient, alors on nous disait porter des masques, tracer, enfin l'OMS disait tracer, isoler, porter des masques. On n'en avait pas, on a attendu, et puis on a fini par être obligé de confiner. Est-ce qu'on n'en est pas là exactement de la
non,
même manière ?
Alors on n'en est pas là pour une raison simple. C'est qu'on a ces vaccins et on en a au moins deux qui ont une efficacité à plus de 90%. Et ça, on ne l'avait pas au mois de février et même en juin, on n'était pas certain. Donc on a cette issue qui nous est favorable. On sait qu'au bout du compte, on va gagner la guerre. Le seul problème, c'est combien de temps on va mettre. Donc ça, c'est déjà ça. C'est-à-dire qu'on a la certitude qu'à un moment donné ou un autre, on va contrôler la circulation de ce virus. Le problème, c'est effectivement comment faire en attendant d'avoir une couverture vaccinale suffisante pour contrer la circulation de ce virus. Et c'est là où, effectivement, c'est la mauvaise nouvelle, parce que nous avions, vis-à-vis des anciennes souches, nous avions démontré qu'en prenant des mesures qui étaient du style couvre-feu ou confinement très allégé, on arrivait à freiner ce virus, à faire que le taux de reproduction soit inférieur à 1%. Et donc, ça nous avait donné, je dirais, une certaine assurance. C'est vrai qu'au mois de novembre, on avait, je dirais, cette assurance, c'était une bonne nouvelle de se dire, après tout, on ne reviendra pas au confinement total parce que des mesures plus allégées, qui handicapent moins notre économie, sont suffisantes pour arriver à le contrôler. Et ça, c'est la leçon d'humilité qui, malheureusement, se répète. C'est-à-dire que ce virus est imprévisible et effectivement, tant qu'on n'aura pas, je dirais, contrôlé la situation par le vaccin, il faut rester sur ses gardes absolues, car on ne maîtrise pas le lendemain.
Malheureusement, telle qu'elle est partie aujourd'hui, cette campagne de vaccination, on n'est pas prêt d'être tous vaccinés. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait fermer les écoles ? Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait se remettre véritablement au télétravail ? Est-ce qu'il faudrait revenir, pour un temps provisoire sans doute, mais à un confinement strict ?
Alors, bon, évidemment, tout va dépendre du diagnostic en France. C'est-à-dire, est-ce que ce variant circule déjà de façon importante et auquel cas, nous sommes déjà à l'étape d'après du freinage de son introduction.
Oui, il s'agit de ne pas se voiler les yeux, ça veut dire que...
C'est clair. Bon, s'il circule déjà, de toute façon, c'est une question de temps. On va se retrouver très rapidement dans la situation anglaise. Et donc là, il vaut mieux anticiper. Ou est-ce que... hypothèse plus favorable, il y a assez peu de souches qui circulent, auquel cas on essaye de faire barrière à son introduction et à sa diffusion, de façon peut-être, je dirais, extrêmement stricte, et on va contrôler la circulation en essayant de préserver, qui effectivement, et on a raison d'essayer de le préserver, l'ouverture des écoles. Si on est dans la situation anglaise ou très peu de temps avant, malheureusement, je ne vois pas comment on va échapper aux mesures qu'ont pris les pays voisins. Si on a encore un peu de temps, à ce moment-là, c'est évident que le télétravail va s'imposer avant la fermeture des écoles parce que, encore une fois, on l'a vu, la fermeture des écoles, et je pense que toutes les autorités européennes l'ont souligné et à juste titre, y compris d'ailleurs, ça commence à être le message fort aux États-Unis aussi. Malheureusement, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir au maximum préserver nos enfants.
Et isoler, C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait en France. On n'isole pas les malades.
Oui, et c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient prioritaires simplement il y a un mois, c'est-à-dire comment faire que les gens s'isolent vraiment lorsqu'ils sont malades. Ça a totalement disparu du discours. On avait parlé de visites à domicile, mais personne n'a dit que c'était pour s'assurer que les gens étaient vraiment isolés chez eux. Oui, bien sûr, il ne suffit pas de diagnostiquer, il faut isoler. Et là, l'idée qu'on puisse contrôler l'isolement, je pense que ça reste une arme, une possibilité qu'il faut user, parce que on l'a bien compris, toutes les mesures, et ça c'est quelque chose qui sort aussi, je veux dire qu'on a appris depuis le début de l'épidémie, c'est pas une seule mesure qui va nous permettre de contrôler la circulation du virus, c'est une addition de vraiment un certain nombre de mesures différentes.
Donc dans les jours qui viennent vont être déterminants, hein.
Le diagnostic qu'on va faire sur la circulation de ce nouveau virus en France et dans les pays européens est déterminant sur l'intensité, l'importance, la force des mesures de freinage qu'on va adopter. Évidemment, si on est dans l'hypothèse que ce virus a déjà commencé à circuler, malheureusement, ça veut dire pour tous, pour nous, qu'on se dirige vers un confinement plus strict.
Merci Anne-Claude Crémieux, et on se retrouve dans un instant avec l'écrivain anglais Stephen Clarke.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadéhi.
Bonjour Stephen Clarke.
Bonjour.
Vous êtes anglais, installé en France depuis belle lurette. Hein. On vous doit des livres très drôles qui se vendent aussi bien des deux côtés de la Manche, comme A Year in the Merd, paru en français sous le titre God Save la France et traduit en 17 langues. Le dernier, c'est Elisabeth II ou L'humour souverain chez Albin Michel, pour lequel je vous avais reçu sur Europe 1 en 2018. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne il y a 11 mois, mais il vient de se retirer de l'union douanière et du marché unique. La période de transition est terminée. Depuis le 1er janvier, c'est l'accord trouvé in extremis, le 24 décembre dernier, qui s'applique. Les formalités douanières et sanitaires sont rétablies pour le transport des marchandises. La libre circulation des personnes n'est plus applicable. Le Royaume-Uni n'est plus tenu de respecter le droit de l'Union européenne et n'a plus accès au marché unique. L'accord fait 1300 pages, vous les avez lues parce qu'elles vous concernent un peu.
Bien sûr, j'ai tout lu, comme tout le monde, comme Boris Johnson d'ailleurs. Oui, oui. Non, bien sûr que non. J'ai écouté les... Mais le problème, quand on est anglais, c'est que quand on regarde les médias anglais, les médias sont tellement divisés pour et contre qu'on ne sait pas où pêcher la vérité. Oui, quand je parle de pêche, c'est un grand sujet parce que Boris Johnson est tellement content d'avoir sauvé quelques kilos de maquereaux.
Pour les pêcheurs britanniques.
Pour les britanniques. Et qu'il a lâché tout le reste. Mais la pêche qui représente, il me semble, genre 0,3% de notre économie. Il dit, voilà, on a sauvé la pêche.
Les formalités administratives vont forcément ralentir le commerce entre nos deux pays, qui représentent quand même 50 milliards d'euros. Hein. Le transport coûtera plus cher. Il y a certains aliments typiquement anglais que l'on trouvait à Paris chez Marks & Spencer, qui sont en rupture de stock.
C'est terrible.
La salade de radis noir, la dinde au curry.
Il y a des trucs pires que ça, parce que nous, les Britanniques qui vivons à l'étranger, on est d'habitude addict aux petits gâteaux au gingembre de Marks & Spencer ou les petits gâteaux au chocolat de Marks & Spencer. Là encore, il y en a quelques-uns parce que ce n'est pas périssable. Mais ceux comme moi qui adorent les desserts de notre enfance qui sont 100% artificiels avec genre custard, gélatine, cherry, tout ça dedans, trifle, ça s'appelle, il n'y en a plus. Les rayons sont vides. Je pense qu'ils sont tous dans un camion quelque part entre Douvres et Londres. Bloqué dans une file d'attente de 5 km. C'est la tragédie.
Alors, le journal conservateur pro-Brexit, The Spectator, rigole, hein, puisque la seule pénurie alimentaire imputée au Brexit, on leur en avait promis beaucoup, la seule, elle s'est déclarée en France.
Oui. Non, mais ça va commencer en Angleterre aussi, parce que j'ai lu avec horreur pour mes amis, parce que, par exemple, le champagne. Les Anglais sont énormes consommateurs de champagne.
10% de nos exportations de champagne, c'est vers la Grande-Bretagne.
Et encore, il y a le côté invisible, ça veut dire les Anglais qui traversent la Manche ou qui traversaient la Manche venaient remplir leur voiture ou leur camionnette de vin, surtout de champagne, et rentrer avec. Maintenant, pour l'instant, avec le nouveau deal, c'est maintenu, la liberté est maintenue, mais bientôt, on sera limité à 30 litres par personne ou par voyage. Ça veut dire 5 caisses de champagne. Et à partir du mois de juin, il y aura une taxe de 4 € par litre. Ça veut dire 3 par bouteille. Pour les Anglais, ça va faire très, très mal.
Oui, en effet. Est-ce que votre permis de conduire est encore reconnu en France? Il y avait tout un mystère là-dessus. On ne savait pas si vous alliez pouvoir continuer de conduire avec votre permis.
Pour moi, ce n'est pas un problème parce que moi, ça fait longtemps que j'ai changé. J'ai maintenant mon joli permis rose
français.
Oui, c'est ça. qui ne se termine jamais en France. On peut continuer à conduire même après la mort. Mais en Angleterre, ça s'arrête à 70 ans. Mais bientôt, il faudra un permis de conduire international. Pour l'instant, le permis britannique sera reconnu. Bon. Le grand problème, c'est la santé, parce que cette carte de la santé ne sera plus... Les Anglais n'ont plus le droit à cette carte européenne de santé.
Il n'y aura plus d'assurance maladie.
Oui, c'est ça. Ça veut dire que les Anglais qui adorent voyager absolument partout en Europe et qui ont l'habitude d'avoir la médecine complètement gratuite, il va falloir avoir une nouvelle carte britannique soi-disant, parce qu'on n'est pas très efficace sur ces choses-là. Donc, je ne sais pas comment les Anglais vont devoir rentrer chez eux pour réparer les dégâts de leur beuverie.
Oui, enfin, cela dit, ce n'est pas l'apocalypse que les anti-Brexit avaient prédit. Hein. Les études prévoient une perte de 4 points de PIB sur un horizon à 10 ou 15 ans, dû au rétablissement des douanes, tout simplement. Mais pas plus que ça.
Mais ça dépend comment vous le mesurez. Si vous le mesurez comme ça par statistique, la Grande-Bretagne, c'est une économie très vivante qui s'adapte beaucoup. Parce que depuis Margaret Thatcher, il a fallu s'adapter, parce qu'elle a vendu toute l'industrie lourde. Il a fallu complètement se réinventer comme un pays de services. Mais par exemple, là où c'est invisible, Londres, quand je vais à Londres, et j'y allais avant, très souvent avant le Covid, il y a un quartier Canary Wharf qui est rempli de banques, des tours avec des banques, un peu comme la Défense, mais encore plus de banques. Alors là, il y a des tours maintenant vides, parce qu'il y a des banques internationales qui ont carrément quitté l'Angleterre pour éviter les taxes de transfert d'argent entre l'Europe et la Grande-Bretagne. Et là, c'est invisible, mais ça représente des milliards qui sont partis de l'Angleterre. Et avant, Londres était riche et à cause de tous ces gens qui ont travaillé dans les banques. Donc, maintenant, si vous voulez aller à Londres louer un appartement dans l'est de Londres, il y a le choix parce qu'il y en a qui se vident. Donc ça, c'est... Statistiquement, c'est peut-être pas énorme, je ne sais pas, mais ça marque vraiment, ça marque un quartier entier, par exemple.
De même, ceux qui en Angleterre regardaient Canal+, Canal+ n'est plus accessible en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles, en Irlande du Nord, par la plateforme MyCanal. Est-ce que vous, il y a des choses que vous ne recevez plus tout à coup ?
Non, parce que heureusement pour moi, la BBC, la radio de la BBC est accessible par Internet partout. La télé, non. Non, ça, non, mais il y a, par exemple, moi, je dois assister à un grand meeting avec des producteurs britanniques parce que j'ai écrit un scénario pour mon premier livre, Year in the Merde, God Save la France. Et donc, c'est une production internationale. Alors, des Anglais qui doivent venir, mais le problème, c'est que maintenant, il va falloir qu'ils demandent un permis de travail. Une visa de travail pour venir. Avant, ils venaient genre, pour la journée sans même réfléchir. Et maintenant, il faut remplir des formulaires avant de venir. Et ça veut dire... Et puisqu'on n'est pas sûr, cette réunion doit normalement se passer en France. Mais si le producteur allemand décide « Ah ben non, finalement, je ne peux pas partir de Munich, il faut venir à Munich », les Anglais doivent redemander un autre visa pour l'Allemagne. C'est, pour la culture, c'est une absurdité. Et par exemple, il y a des tournées de musiciens...
Anglais, oui.
Britanniques. Qui avant, ils tournaient dans tous les pays anglais, sans problème. Maintenant, chaque corps de métier doit demander, genre pour le son, l'image, les musiciens doivent demander un visa de travail. Et en plus, on va contrôler tout le matériel. Ça veut dire les caméras, les amplis, les guitares, tout ça, comptabilisé, inspecté. Pour les gens qui organisent la culture, c'est au niveau du virus presque, parce que ça, ça leur crée tellement de barrières qu'il y a des gens qui ne vont pas faire des tournées.
Il y a les 81 000 sites Internet britanniques qui ont été suspendus parce qu'ils disposent d'un nom de domaine européen se terminant par EU. Alors que comme ils ne font plus partie de l'Union européenne, ils n'ont plus le droit de
finir par EU. Oui, il y a des petits trucs comme ça. Moi, j'ai pitié pour tous ces Français qu'avant j'ai rencontrés. On allait dans n'importe quel café ou restant à Londres et il y avait très souvent des jeunes Français qui venaient là pour une année, pour améliorer leur anglais, pour servir, pour être serveur, serveuse.
Ah, c'est fini les petits jobs.
Et là, c'est fini parce qu'il y a un seuil minimum de salaire et on ne peut pas entrer. Ça veut dire que ce sera pire pour les Britanniques parce que maintenant, leur café et leur repas vont être préparés par les Britanniques. Alors là, ça, c'est l'horreur. Les Français, ils n'ont plus de Français pour le faire.
Oui, il n'y avait pas que des Français pour préparer le café.
Ah, non, mais sans rigoler, à Londres, la personne au bar, dans n'importe quelle chaîne, parce qu'on ne va que dans des chaînes en Angleterre, c'était des Polonais, des Lituaniens, des Français, des Italiens et tout ça. Et maintenant, ces gens-là ne pourront plus venir. Des nouveaux, il y a les anciens qui peuvent rester, ils ont le droit de rester, mais les nouveaux ne pourront pas venir. Alors forcément, ça va avoir un impact sur nos palais. On va s'appauvrir.
Ben, ça va devenir comme c'était dans les années 70, où on ne pouvait pas boire un bon café ni faire un bon repas à Londres.
Oui, c'est ça.
Depuis, ça avait beaucoup changé. C'est devenu quasiment une capitale de la gastronomie.
Ah ben oui, c'est ça. Moi, je me souviens, jusqu'à 1990, à peu près, c'était impossible de trouver un bon café à Londres, sauf dans certains petits cafés italiens, dans le Soho, dans le centre de Londres. Mais sinon, c'était du Nescafé trop dilué, quoi. On va retourner à ça.
Merci, Stephen Clark. Vous préparez un livre sur le sujet ?
J'ai déjà écrit. En fait, juste avant le Brexit, j'ai écrit un roman qui s'appelle en anglais « Mad in Europe » ou en français « God Save le Brexit ». Et ça essaye de prévoir tous ces problèmes et recycler tous les clichés britanniques sur l'Europe et tout ça. Et « God Save le Brexit », quand je regarde maintenant, je me dis, sur certaines choses, je me suis trompé, mais c'est sur certaines absurdités, surtout les absurdités, j'avais un peu raison.
Alors, God save the Brexit.
Voilà.
Merci, Stephen Clark.
Merci. Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine est terminée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 9h. Place à présent aux grandes voix. Bonjour Sébastien Guyot.
Bonjour Frédéric. On va parler de la fin du Trumpisme ou non, de la stratégie vaccinale du gouvernement et puis de l'héritage Mitterrand chez Emmanuel Macron.
Bonne émission.
Merci.